Radio Barque 17e, notre deuxième partie prévoit dans son sommaire pour tes contre-regards, Michel, le préfet. Le préfet de nouveau.
Le préfet, sa femme.
De nouveau, puisque c'est un sujet que tu avais bien évoqué, mais apparemment tu as quelques éléments sur lesquels tu souhaites revenir.
D'abord sur la couverture médiatique de cette affaire, entre guillemets, affaire bien entendu. Hein. Quand même, Jean-Claude, il était temps que l'indépendant, qui a quasiment le monopole de l'information sur le département, se décide enfin à nous livrer un article au sujet de...
Parce qu'il s'agit du préfet de l'Aude, rappelons-le, qui est à Carcassonne.
Hein, bien sûr. Une sorte d'article un peu consistant, même s'il n'en avait jamais produit depuis le 30 janvier. Au sujet de cette étrange affaire qui fait jaser en ville, de Carcassonne et dans les dîners en ville. Parce qu'évidemment, la penace, les gens ne savent pas forcément qu'il y avait une menace qui planait au-dessus de la rédaction de l'Indépendant, à savoir celle que le canard enchaîné, qui par des hasards qui sont ceux de ce genre de journalisme, avait pris connaissance de mes deux billets consacrés au sujet, que la menace donc d'un article du canard enchaîné...
On connaît la capacité du canard enchaîné d'enquêter. On la connaît quand même, cette capacité.
Avait l'intention de faire un papier justement sur cette affaire. Et à la veille de la sortie mercredi, donc c'était mardi, à la veille de la sortie habituelle du canard, sort un article de l'Indépendant sur l'affaire en question. Comme par hasard. Un article qui fit référence d'ailleurs au fait que le canard enchaîné s'intéresse maintenant à l'affaire. Bien entendu. Alors, bien entendu, de mauvais esprits pourraient penser que cet article-là, qui avait été sinon retenu, en tout cas retardé, pris par...
A été poussé par les circonstances,
aurait été poussé. Je ne dirais pas jusque-là.
Mais
quand même.
Mais l'auditeur est libre de le penser, quand même.
L'auditeur est quand même libre de le penser s'il le veut. Je ne peux pas l'empêcher, évidemment. Je donne des faits. Après, chacun en tire ce qu'il voudra. Par contre, rien n'est pas de cette information sur l'information et la manière dont elle est couverte. Dans cet article, j'ai retenu ceci dans la bouche du préfet rapporté par
le journal.
Le journaliste en question. L'article n'est pas signé, d'ailleurs, tant que je m'en souvienne. Il dit ceci. Je parle du préfet. Il y a là la question d'un possible conflit d'intérêts, d'usage ou d'une influence. C'est exactement la question posée pour Fillon et la mission de son cabinet pour AXA. Écoutez bien la suite maintenant. Imaginez que la mairie demande une aide de l'État pour refaire le parvis du Dôme.
Le Dôme de Carcassonne, qui est le palais des congrès.
Le futur palais des congrès, pour lequel la femme du préfet avait été recrutée afin d'en faire la préfiguration. Alors du coup, je m'arrête deux secondes, mais voyons voir. Le journaliste ne s'arrête pas sur cette dernière phrase du préfet pour lui faire observer, comme je l'ai indiqué dans mes deux billets consacrés à cette affaire-là, le 30 et le 31 juillet, qu'effectivement, l'État, la ville de Carcassonne, avait demandé une subvention de 800 000 euros pour ce congrès.
Et obtenu 400 000.
Et obtenu, en tout cas, fléché dans la décision modificative du budget de la ville de Carcassonne, une première tranche de 400 000 euros.
Voilà, ce qui n'est pas rien.
C'est pas rien. Donc ce qui veut dire que dans cet article, le préfet dit, effectivement, s'il y avait une demande de subvention, j'aurais été en conflit d'intérêt.
Or, il y avait.
Or, il y a bien effectivement une demande de subvention.
Mais qui était passée inaperçue.
Le journaliste dépositaire de ce propos ne s'arrête aucunement sur cette dernière phrase. Il fait l'impasse sur effectivement cette subvention demandée. Et tranquillement, on continue, sans...
Oui, voilà. Alors, c'est une affaire bizarre.
Moi, c'est quand même, indépendamment de ces deux informations, la couverture de l'information et cette dernière phrase, et la manière dont le journal ne reprend pas, effectivement, cette absence, cette information qui indique bien qu'il y a manifestement un conflit d'intérêts. Or, je rappelle quand même à nos auditeurs qu'un conflit d'intérêts, ce n'est pas un délit. C'est une situation qui est très contestable, qui est très regardée par les pouvoirs publics, et qui relève d'un conflit entre la mission d'un agent public, hein, et ses intérêts privés.
Voilà, mais bon, qui n'est pas un délit, tu le soulignes.
Mais qui n'est pas un délit. Alors, dernière chose, enfin quand même, hein, Carcassonne, c'est pas Paris, quoi. Hein, c'est pas Paris, c'est pas Londres, etc. Hein, on va pas me faire croire, hein, que les relations entre le préfet, le maire de Carcassonne, en fait, et sa femme sont à ce point distantes, hein, que le préfet en question n'ait jamais eu d'information sur la nature du contrat de sa femme, sur ce pourquoi elle allait travailler, et sur le fait que le dôme avait reçu une subvention de l'État de 4000 euros.
Voilà, hein.
Donc tout ça me paraît bien étrange, hein, et j'attends quand même, avec impatience, hein, ce que dira, ou ce que pourrait dire M. Lara, le maire de Carcassonne, comme son responsable du pôle culturel, M. Dupont, qui est un arbre venu, je crois, d'origine, hein, qui est responsable du pôle culturel, et qui sont, dans cette affaire-là, pris pour des couillons, passe-moi l'expression, par le préfet. Alors, j'attends impatiemment réaction, mais quand ?
Oui, voilà les éléments nouveaux, entre guillemets, que tu trouverais à mettre en exergue.
Bien sûr.
Voilà. Cela dit, bon, des gens qui ne sont pas tout à fait au courant que leur femme travaille ou dans telle ou telle circonstance, je ne vais pas insister sur le plan national et faire un parallèle, mais il est possible d'en faire d'autres.
Alors,
on s'en tiendra là et on passera à la partie suivante sommaire.
Oui, c'est pour ça, Jean-Claude, que sa référence à Fillon m'a particulièrement choqué.
Oui, voilà. Curieux et inattendu. La salle multimodale de Narbonne et toutes ses péripéties pour conclure cette deuxième partie.
On entre maintenant pas dans le vif du sujet encore, mais dans une procédure qui pourrait accélérer les prises de position des uns et des autres, puisque nous avons appris à la lecture de l'Indépendant que le jury allait bientôt se réunir pour choisir entre les quatre groupements associant concepteurs, en fait, et réalisateurs. Hein. Pardon, cinq. Hein.
Il y en a donc le projet avance, matérialise.
Le comité, enfin, se matérialise. Le jury va examiner, en fait, les cinq propositions.
Oui.
Il va en proposer une à la commission d'appel d'offres de la ville qui se réunira ensuite, qui décidera, bon, si oui ou non elle prend, et le maire ensuite qui, d'après la procédure qui a été décrite, déciderait seul, effectivement, l'attribution du marché.
Bon.
Ce qui reste à voir. Alors, du coup, les opposants à cette salle, à la fois sur l'emplacement et sur l'idée même d'en faire une, sont mobilisés. Et le lendemain, dans la presse, déclaraient qu'effectivement, ils saisiraient toutes les occasions qui leur sont présentées. Je parle des opposants de l'association.
Voilà, de l'association des opposants.
Des opposants de
bon,
Parc,
maintenant, quid de l'opposition municipale de Narbonne?
Parce que j'attends avec impatience aussi maintenant les prises de position de l'opposition municipale qui s'est prononcée, elle, contre le principe même, comme moi d'ailleurs, hein, mais je me suis expliqué dans mes billets sur le sujet en expliquant pour quelles raisons techniques, juridiques et politiques cela me paraissait tout à fait inopportun. Mais bon,
mais
l'objet n'est pas là. Mais bon,
ils peuvent s'opposer.
Bien sûr, ils sont dans l'opposition et contrairement à ce que l'un d'entre eux me disait un jour, ils ont intérêt à agir juridiquement puisqu'il y a eu une jurisprudence récente, et je ne vais pas revenir non plus là-dessus en 2014 qui le permet, alors qu'elle ne le permettait pas avant. Donc ils ont les moyens, si effectivement les raisons juridique, fait, le permettait, hein, d'attaquer, fait, devant le tribunal administratif, toute partie des actes qui seront suivis.
Et as-tu le sentiment qu'ils vont le faire?
C'est la question que je me pose, parce que de certaines rumeurs, je mets des guillemets autour de rumeurs, parce que c'est pas que des rumeurs, ce sont des informations dont je ne donnerai pas ma source ici.
Bah évidemment, un journaliste ne révèle jamais ses
sources,
Michel,
c'est vrai.
Voyons.
Mais qui m'amène à penser que certains éléments du groupe socialiste
du conseil municipal de Narbonne
que préside M. Sainte-Cluque ne serait pas forcément très demandeur d'une action en justice et que alors pour quelle raison
ça traîne les pieds
ça traîne les pieds et on ne peut pas ne pas se poser la question. En tout cas, moi, je la pose,
pourquoi,
connaissant quand même un peu comment fonctionne ce genre de maison, quoi, hein, pour avoir travaillé auprès d'exécutifs.
Autrement, pourquoi?
Ben parce que bon, cette salle pourrait sortir à la veille, en tout cas les premières pierres, à la veille d'élections municipales, et qu'on pourrait se dire, en fait, dans certains milieux, en fait, de l'opposition à Didier Mouly, qu'on, dans ces circonstances-là, campagne, peut-être que ce serait compliqué, voire même une partie de notre électorat serait partagée, que ça pourrait, à la fin, avoir plus de dégâts politiques, effectivement, que d'avantages.
Voilà. Bon, donc, là encore, on est vraiment dans le billard à trois bandes.
On est dans le billard à trois bandes, et j'aimerais que tous les acteurs politico, en fait, associatifs, se prononcent maintenant clairement sur le sujet et disent quelles sont vraiment leurs intentions. Et c'est pour cela, d'ailleurs, entre parenthèses, que l'idée des opposants de demander à tous les candidats aux législatives de se prononcer sur le sujet, s'ils sont favorables ou pas et dans quelles conditions, me paraît une bonne idée. Et puis là, on verra aussi comment se comportent les uns et les autres.
Oui, sauf qu'avant de marquer la pause, les futurs députés ou les candidats à la députation répondront simplement que cela ne les concerne pas véritablement et on pourra le comprendre.
Tu penses que vraiment nos futurs députés manquent de courage dans ce genre de circonstances ?
C'est même pas une question de courage, c'est que finalement, bon, on en reparlera.
On en reparlera.
Suspense. On marque la deuxième pause.